Vous êtes sur RTL.
RTL.
Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste?
Oui.
Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste.
Le journal inattendu.
Je ne voudrais surtout pas que vous vous imaginiez que votre femme m'a hébergé autrement qu'en tout bien tout honneur.
Oh non, bien sûr, bien sûr. Non, non, bien alors, comme il n'y a qu'un seul lit à la maison, vous avez dû pousser par terre sur la moquette, forcément.
Oui. D'ailleurs, elle est très dure, enfin, ça m'a quand même dépanné.
Je ne vous colle pas mon poing sur la gueule, je pense que ce n'est pas la peine.
Non, 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 ce n'est pas la peine.
12h30, 13h30.
Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Le journal inattendu sur RTL, avec Thierry Lhermitte et Ophélie Meunier.
Et non, ce n'est pas une serpillière. Bonjour Thierry Lhermitte, bienvenue dans le journal inattendu. Merci d'être avec nous et de prendre les commandes de cette émission. On est ensemble une heure en direct. On va parler bien sûr actualité, théâtre et cinéma. Vous étiez sur les planches pour interpréter Les Fleurs de Soleil avant que l'épidémie ne stoppe net vos représentations. Côté cinéma, malgré le confinement, les tournages continuent. Vous allez nous raconter cela. Mais surtout aujourd'hui, vous êtes là car vous soutenez depuis plus de 15 ans la Fondation pour la Recherche Médicale. La recherche est plus que jamais, avec ce que l'on vit en ce moment, au cœur de nos préoccupations et des vôtres. Thierry Lhermitte, vous allez régulièrement à la rencontre de chercheurs, de scientifiques. Vous allez nous dévoiler ce qu'ils vous racontent. Et d'ailleurs, en parlant de science, il y a un philosophe des sciences que vous admirez et que vous avez souhaité recevoir aujourd'hui, c'est Étienne Klein. Il sera avec nous juste après 13h. Thierry Lhermitte, vous faites partie de nos vies depuis plus de 40 ans. On a forcément un peu le sentiment de vous connaître, mais est-ce vraiment le cas ? Vous allez apporter une première réponse à cette question avec l'autoportrait. C'est comme ça que commence toujours le journal inattendu. Vous avez une minute pour vous présenter. Alors Thierry Lhermitte, qui êtes-vous ?
Né en 1952, yeux bleus, type caucasien, cheveux gris, 1m83, 83 kilos. Lambert Wilson ? Non. Chose du 45, droitier, groupe sanguin A+, cicatrice d'appendicectomie, pas d'allergie connue, négatif au Covid-19, à ce jour. Gérard Jugnot ? Non. Tatouage sur la fesse droite, presbyte et hypermétrope, baxé, profession comédien, scénariste, moniteur d'équitation. Guillaume Canet ? Non. Permis de conduire, AM, A1, A2, B1, B79 et 96, permis bateau, permis de chasse, permis de radiotéléphoniste restreint, parrain de la Fondation Recherche Médicale depuis 16 ans. Et c'est Thierry Lhermitte.
Thierry Lhermitte. Merci Thierry Lhermitte. On passe à l'actualité de ce samedi avec à la une des commerçants inquiets alors que plus de 90 manifestations contre la loi Sécurité Globale et la précarité sont prévues aujourd'hui dans tout le pays. Les petits commerces craignent de ne pas pouvoir travailler correctement à cause des rassemblements alors qu'ils en ont grandement besoin en ce moment. Nous serons en direct de Bordeaux pour suivre l'une des plus grosses manifestations de la journée. C'est ce matin que le président Valéry Giscard d'Estaing a été inhumé à Autun dans le Loir-et-Cher. Une cérémonie qui s'est tenue dans la plus stricte intimité, 30 personnes à peine. Nous avons assisté aux obsèques. Cette question à l'approche de Noël, est-ce vraiment en famille que l'on se contamine le plus ? Une étude des médecins généralistes de France y répond, tous les détails dans ce journal. Et puis en foot, la victoire de l'OM hier en Ligue 1 qui prend provisoirement la deuxième place du classement. Les affiches du jour, Rennes-Lens et Montpellier-Paris. Côté météo, un week-end plutôt arrosé, Valérie. Comment ça va ?
Ça va, c'est vrai qu'une nouvelle dégradation est arrivée par l'ouest. Alors ça donne des pluies entre le Cotentin et le Pays Basque, mais on a un petit peu de neige qui se mêle à tout cela dans l'intérieur de la Normandie ou encore de la Bretagne. Ça va pas tenir, tout va bien, simplement quelques flocons qui se mélangent à la pluie. De la neige, on en a dans les Alpes du Sud, ça tombe encore assez dru. On a de l'instabilité toujours sur la Corse et sur les côtes de la côte des Alpes-Maritimes et du Var. Ça va durer toute l'après-midi. Entre les deux, on peut espérer des éclaircies pas trop vilaines et des températures bien hivernales, donc on avance. 6 à Saint-Étienne et à Belfort cet après-midi, 7 à Rennes et Chambéry, 8 à Paris, à Cherbourg, à Orléans, 9 à Montauban, 11 à Biarritz et 14 à Toulon.
Merci Valérie. Rendez-vous à 18h parce qu'à 13h c'est vous qui faites la météo. Vous avez bien noté ?
Oui, j'ai tout retenu.
Le journal inattendu sur RTL.
C'est reparti pour une journée de manifestation contre la loi Sécurité Globale, mais aussi contre la précarité. Plus de 90 rassemblements sont prévus dans toute la France. Ceux qui s'inquiètent surtout, ce sont les commerçants. Déjà fragilisés par les deux confinements, ils craignent désormais que ce soit les manifestations à répétition qui les empêchent de travailler. On retrouve en direct notre correspondant à Bordeaux, Philippe de Maria, ville où on attend plusieurs défilés aujourd'hui.
Exactement, et je me trouve rue Sainte-Catherine. C'est une des plus grandes artères commerciales d'Europe, une grande ligne droite piétonne qui traverse Bordeaux. On redoute de nouveaux échauffourées. Comme samedi dernier, une vingtaine de jeunes qui d'un coup se déguisent en Black Blocs et s'en prennent aux vitrines parmi la foule des clients venus enfin faire leurs achats de Noël. Et aujourd'hui, vous le disiez, pas moins de deux manifs sont organisées, une à 14, l'autre à 15h. La préfète Bussiaud appelle les organisateurs à prendre leurs responsabilités et tenter de contenir les casseurs. Sur retour à l'envoyeur par Stéphane Aubé, secrétaire départemental de la CGT, joint il y a quelques minutes.
Les manifestations, elles sont déclarées. Pour qu'il y ait une garantie que les pouvoirs publics sécurisent ces manifestations, s'il y a des débordements, s'il y a des actes de malveillance, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. C'est à ça que servent les déclarations de manifestation. Nous, on appelle à manifester contre les licenciements boursiers, contre la précarité. Nous, le message, il est clair, c'est celui-là qu'on porte.
Et un arrêté préfectoral interdit toute manif dans l'hypercentre et plusieurs centaines de policiers et gendarmes sont mobilisés ici, à Bordeaux.
Philippe de Maria, correspondant à Bordeaux pour RTL. La mobilisation contre la loi sécurité globale a été abordée hier par le président de la République lors de son interview sur le média brut. Emmanuel Macron récuse toute accusation de dérive autoritaire dans le pays, tout en reconnaissant qu'il y a bien eu des violences policières ces dernières semaines. D'ailleurs, le président a annoncé la création dès le mois de janvier, d'une plateforme qui permettra de signaler d'éventuelles discriminations lors de contrôles de police. Une annonce qui a fait bondir les syndicats de policiers. Émilie Beaujard a joint Fabien Van Emmerich, secrétaire général Alliance pour RTL.
Il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Il faut que le président de la République arrête de polémiquer. Il faut qu'il sorte des beaux quartiers, qu'il aille dans les quartiers compliqués, difficiles, auxquels les collègues sont confrontés tous les jours face à une dangerosité de plus en plus accrue. Et arrêtons de souffler le chaud et le froid comme il a pu faire encore hier. Alors un coup, on nous aime, on nous soutient, on condamne des voyous. 10 minutes après, on nous parle de violence policière ou de violence dans la police. On nous parle d'une plateforme de signalement qui existe déjà d'ailleurs à l'IGPN. Et ensuite, on nous dit qu'on fait des contrôles aux faciès. Donc je ne sais pas ce que cherche le président de la République, mais en tout cas, il ne va faire qu'une chose, c'est augmenter la fracture qu'il y a aujourd'hui et surtout attiser la colère et le mécontentement des policiers. Au vu des dires du président de la République, on va tout simplement dire aux collègues de ne plus contrôler et de ne plus faire de contrôle d'identité. Et on verra vraiment quel était le travail de la police. Et après, le président de la République assumera ses délinquants et la délinquance.
Propos recueillis par Émilie Beaujard pour RTL. Toujours sur le plan politique, sachez que cette nuit, une proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale sur l'élargissement de l'adoption. Les couples gays ou non mariés pourront donc peut-être bientôt adopter un enfant si le Sénat valide le texte. Les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing ont eu lieu ce matin dans le Loir-et-Cher, dans la plus stricte intimité. Le président décédé mercredi à l'âge de 94 ans a été inhumé à Autun. Christian Panvert, correspondant de RTL, vous avez assisté à la cérémonie ce matin. Situation étonnante finalement d'avoir si peu de monde pour un si grand homme.
Oui, le corbillard est arrivé à 10h35, suivi par les membres de la famille, l'épouse de l'ex-président Anémone, ses trois enfants, Valériane, Louis et Henri. Le cercueil était recouvert de deux drapeaux cousus, le drapeau français et le drapeau européen, une volonté de Valéry Giscard d'Estaing. Des proches étaient là aussi, comme l'agriculteur qui gérait ses terres ou encore le secrétaire de sa fondation, Geoffroy de Rocancourt.
Je partage l'émotion de sa famille, car pour moi c'était un grand patron. J'ai beaucoup apprécié.
Un peu plus d'une trentaine de personnes ont pu pénétrer dans l'église. Selon les souhaits du défunt, la musique a fait partie de la cérémonie. La soprano Karine Dehaye, sacrée aux victoires de la musique classique, a notamment interprété l'Ave Maria de Gounod. Un périmètre de sécurité empêchait l'accès aux habitants. Sophie est restée chez elle.
Avant d'être un personnage public, c'est d'abord un personnage privé. Je peux totalement comprendre cette décision, totalement.
Elle viendra se recueillir demain près du cimetière sur un terrain privé où Valéry Giscard d'Estaing sera inhumé à côté de sa fille Jacinthe, décédée en 2018.
Christian Panvert, correspondant de RTL à Autun dans le Loir-et-Cher. Sachez que l'accès au caveau sera libre, le préfet du Loir-et-Cher l'a confirmé. Tous les concitoyens qui souhaitent rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing pourront le faire. Dans un instant, cette étude des médecins généralistes de France qui répond à une question que l'on se pose tous. Où est-ce qu'on se contamine le plus? Les détails juste après cette courte page de pub.
Le journal inattendu sur RTL.
Thierry Lhermitte, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Thierry Lhermitte et Ophélie Meunier.
La suite du journal avec Noël qui approche. 6 convives adultes à table et pas un de plus. C'est la recommandation donnée par le Premier ministre Jean Castex cette semaine. Le but est d'éviter une nouvelle flambée épidémique après les fêtes. Thierry Lhermitte, avez-vous une idée d'où l'on se contamine le plus?
Dans les rapports amicaux et familiaux.
Absolument. Un sondage réalisé par le syndicat de médecins généralistes MG France pendant le deuxième confinement montre en effet qu'on se contamine le plus souvent à la maison. C'est même le premier lieu de contamination, comme nous l'explique Margot Bayard, vice-présidente de MG France.
sur les patients qu'ils ont testés positifs. L'essentiel, 36%, donc se contaminaient en famille. Derrière, donc venait la contamination avec des amis pour 16% aussi, ce qui donne à peu près 50%. Hein, entre la famille et les amis, c'est 50% de la contamination. Donc, rester extrêmement vigilant sur ces mesures barrières, surtout que donc lors des fêtes de Noël, on va se retrouver avec potentiellement des personnes qui sont fragiles. Hein. Donc, pas hésiter à, avant le repas, mettre le masque. On mange ensemble, on respecte une distance. 6 personnes, ça peut permettre de garder une certaine distance, même lors du repas, lorsqu'on ne met pas le masque. Et dès que le repas est terminé, on remet son masque, surtout au moment où on se relâche en fin de repas. Donc, ce serait un conseil majeur.
Voilà pour les préconisations des médecins pour votre repas de fête. Propos recueillis par Agathe Landais pour RTL. En foot, l'OM prend provisoirement la 2e place du classement en Ligue 1 après avoir gagné hier contre Nîmes, 2-0. Les Marseillais ont en plus 2 matchs de retard dans le championnat et signaient hier leur 5e victoire d'affilée. Match à suivre aujourd'hui, Rennes-Lens à 17h et vous pourrez vivre en direct dans RTL Foot la rencontre Montpellier-PSG à partir de 21h. Et puis depuis hier et jusqu'à ce soir, tard dans la nuit, c'est la 34e édition du Téléthon. Une édition pas comme les autres à cause des restrictions sanitaires. L'événement populaire est uniquement retransmis à la télévision, sans toutes les animations habituelles sur le terrain. Les organisateurs rappellent que le terrain, justement, c'est 40% de la collecte chaque année. Alors il est d'autant plus important de se mobiliser pour faire un don. C'est 36-37 ou téléthon.fr. Thierry Lhermitte, hein, j'imagine que ça vous touche, toutes ces mobilisations pour la recherche, le Téléthon, la Fondation pour la Recherche Médicale.
Oui, c'est très important parce que le don privé, on croit que c'est... Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh non, c'est l'État qui devrait le faire. L'État, il fait beaucoup. Mmh. » Les entreprises font beaucoup aussi. Et pour un tiers du budget des laboratoires, c'est le don privé. Donc c'est très très important.
Ouais. Vous êtes un parrain très engagé auprès de la Fondation pour la Recherche Médicale. On va en parler dans ce journal inattendu. Mais d'abord, comment vous l'avez vécu, vous, cette drôle d'année 2020?
Je l'ai vécu d'une manière privilégiée parce que voilà, j'ai un appartement confortable, donc le premier confinement, honnêtement, ça n'a pas été pire pour moi. Je pensais aux gens qui étaient avec des toutes petites surfaces et nombreux, c'était absolument abominable. Et les gens qui perdaient leur emploi, c'est absolument horrible, etc. Bon, et le deuxième confinement, j'étais également privilégié parce que les tournages sont autorisés là et que donc je suis en tournage depuis, donc vraiment mon cas, je ne suis pas à plaindre, on va dire.
Cinéma et théâtre, ça c'est la vie professionnelle. Ouais. En 2020 pour vous. Vous étiez au théâtre avec la pièce Fleur de Soleil. Une tournée dans toute la France était prévue, mais stoppée par le confinement. Je rappelle, Les Fleurs de Soleil, c'est l'adaptation du livre de Simon Wiesenthal. C'était un chasseur de nazis. Justement, un nazi lui a demandé son pardon avant de mourir. Et la question qu'il pose dans son livre, et donc dans la pièce, faut-il pardonner? Cette pièce, c'est une vraie réflexion sur le pardon de manière générale. Ça vous plaît d'être dans ce registre dramatique avec une dimension psychologique profonde?
Oui, parce que c'est vraiment une question qui est un peu fondamentale dans les rapports humains, parce que on n'est pas forcé de pardonner à des criminels de guerre. Enfin, on est rarement confronté à ce genre de situation, en tout cas, on a cette chance. Mais le pardon, ça fait partie de la vie. Voilà. Alors là, il y a un cas extrême qui nous interpelle beaucoup, mais ça rejaillit sur tous nos rapports avec les gens, en fait.
Si tout va bien, ça reprend en janvier, jusqu'en mars pour une 50aine de dates. Vous parliez cinéma, alors. Il y a un an, vous étiez invité dans Refait la télé avec Jade et Éric Dussart. Et vous leur racontiez, vous rigoliez déjà, que vous bossiez sur l'adaptation cinématographique de ça.
D'Éric, d'Asfilm, en 2D, avec lunettes de vue. Pour l'instant, c'est secret.
C'est sérieux,
c'est pas une blague. Donc, ça commençait comme une blague, pour tout vous dire.
Ouais,
et puis, à force de le dire et que ça fasse marrer les gens, je me suis dit, mais putain, mais c'est super marrant. On aime bien se moquer des Allemands, il faut bien le dire.
Ouais.
Voilà, donc un inspecteur aussi lent et ennuyeux que Derrick, il y a de quoi rigoler.
Je viens de vous demander si c'était une blague. Parce que
mais ça ne l'est pas.
Vous êtes réputé pour être un bon blagueur et pour aimer raconter des énormes cracks aux gens et voir jusqu'où vous pouvez les tenir.
Ouais.
Alors, c'en est où, ce projet?
Non, le scénario est écrit et on tournera en 2021.
C'est terrible parce que je vous regarde droit dans les yeux. J'ai du mal à vous croire.
Non, c'est vrai.
Donc, tournage prévu en 2021.
Ouais,
vous avez un peu plus de précision sur le casting?
Non, je ne peux pas vous dire encore ça. Non, c'est secret encore.
Un acteur français, en tout cas.
Un acteur français, une actrice de désacteur. Oui, mais c'est très avancé.
Il y aura des poursuites en bateau?
Ah oui, en péniche. Oui. Absolument.
Alors si vous êtes là avant tout, c'est parce que vous êtes très préoccupé par l'actualité, par la recherche. Vous allez sur le terrain auprès de professionnels de la science et de la santé pour comprendre leur travail. Dans un instant, vous allez nous raconter ce que vous découvrez. Restez avec nous, à tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Thierry Lhermitte.
Avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Thierry Lhermitte.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Thierry Lhermitte, vous êtes depuis 2004 l'un des parrains de la Fondation pour la Recherche Médicale. C'est un engagement qui vous tient très à cœur. Qu'est-ce qui vous fascine dans la science? Pourquoi avez-vous souhaité porter ce combat?
Ce chemin de la connaissance, pas à pas, les choses qu'on peut remettre en cause, et puis voilà, soigner la souffrance, tout simplement. Alléger la souffrance, soigner, guérir, quand on peut, ce chemin-là. S'il n'y avait pas la recherche, on serait encore à faire des saignées et des clistères.
Vous parlez de soins et de guérison. Ouais. La Fondation pour la Recherche Médicale, c'est quoi? Comment elle agit sur notre quotidien? Pour le comprendre, notre reporter Raphaël Vantard est allé à la rencontre de Guillaume. Guillaume est atteint d'une maladie rare et grâce à la Fondation, il a pu bénéficier d'un programme de traitement qui lui a clairement sauvé la vie. Voici son histoire.
Je suis né en 1976 avec un déficit immunitaire primitif. Ça signifie ne pas avoir d'anticorps pour se défendre contre l'environnement extérieur fait de bactéries et de virus. Et je suis un peu un miraculé en ce sens que, en 1976, la recherche et la médecine avaient fait des progrès assez importants pour que je puisse être alors diagnostiqué et traité grâce à une greffe de moelle osseuse qui m'a permis de fabriquer les anticorps que je ne fabriquais pas tout seul. Le professeur Griselli, qui à l'époque s'occupe de ma situation, a recherché dans ma famille proche. J'avais une tante qui était à peu près compatible, suffisamment en tout cas pour tenter une greffe. Et la greffe a fonctionné et 20 à 30 ans plus tard, j'ai appris que la probabilité était de 1 sur 200 000. Pour trouver un bon donneur comme ça. Encore aujourd'hui, j'ai un déficit immunitaire, on va dire partiel. Il me manque encore certains anticorps. Je les obtiens grâce à un traitement que j'ai régulièrement à la maison.
À part ça, vous menez grâce à cette première greffe finalement une vie normale.
J'ai eu une enfance éventuellement un petit peu plus sous surveillance, mais en fait j'ai pu faire des activités comme tout le monde, aller à l'école comme tout le monde. J'ai exercé différentes professions dans ma vie. J'ai aujourd'hui une profession qui m'envoie dans le monde entier visiter certains pays, pas toujours les plus sécures d'un point de vue de la santé. Je suis papa de 2 enfants, donc aujourd'hui j'ai une vie tout à fait normale grâce à la recherche et au traitement que je peux obtenir. Tout cela me donne beaucoup de confiance dans la vie de tous les jours, et y compris quand dans mon entourage je peux voir des gens qui ont des situations de santé un peu plus difficiles, qui apprennent une certaine maladie, etc. Je suis assez confiant. Je peux leur témoigner du fait que on est bien entouré en termes de recherche et de médecine, et que quand la maladie est diagnostiquée, c'est vraiment un premier pas vers la guérison. Dans de nombreux cas, bien sûr, c'est pas toujours le cas, mais dans de nombreux cas.
Il y a un rituel dans le journal inattendu, c'est que vous devez même poser une question à l'invité qui est Thierry Lhermitte. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez lui dire?
Le remercier parce que par sa notoriété, eh bien, il donne de la voix à des sujets importants comme la recherche. Éventuellement, une question, en effet, pour Thierry Lhermitte, c'est de, il soutient la recherche. Or, la recherche, c'est un monde d'expertise impressionnant. Est-ce qu'il comprend tout ce que lui racontent les chercheurs aujourd'hui?
Et j'essaye de comprendre.
Ouais.
Je visite les laboratoires, on me raconte des choses qui sont très compliqué, qu'on simplifie déjà pour moi et que j'essaye de rendre compréhensible quand je vais les raconter à la radio. Et puis moi, j'arrive pas à dire des trucs quand j'ai pas compris, donc je suis obligé de creuser un peu pour arriver à comprendre ce que je peux, évidemment. Mais c'est très très compliqué. Les gens qui disent qu'ils savent et qui sont pas spécialistes de la matière ne savent rien.
Voilà. Donc si vous savez pas, vous dites désolé, ça je ne sais pas. En revanche, ce que je peux vous dire, que je sais, c'est ça. Parmi les axes de travail de la Fondation, il y a la recherche sur ce qu'on appelle les virus émergents. Mmh. On est en plein dedans avec le Covid-19. Ouais. Pour faire face à cette situation sans précédent, les chercheurs se mobilisent. La Fondation pour la Recherche Médicale les soutient. Vous avez rencontré Bruno Canard, spécialiste des coronavirus. Vous avez passé une journée à ses côtés à Marseille. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris avec lui, justement?
J'ai appris ce qu'il fallait savoir, mais on ne va pas rentrer là-dedans dans le détail sur le virus lui-même et les virus émergents. Mais en soi, ce que j'ai appris et qui m'a marqué, c'est que la recherche, elle a beaucoup avancé jusqu'au SARS-CoV-1. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis là-dessus, et principalement sur le vaccin.
Pour simplifier, c'est un autre coronavirus.
C'est un autre coronavirus, absolument. Donc tout le monde était sur les virus émergents. Et puis, en fait, le SARS-CoV-1 a disparu comme il est venu avec le printemps. C'est comme ça. Voilà. Et là, malheureusement, les fonds se sont absolument arrêtés. Et alors qu'il y avait vraiment des avancées, des espoirs de traitement, pas que de virus, de traitement, il n'y a plus de financement. Et là, si à ce moment-là, on avait continué sur le traitement des coronavirus, on ne serait pas dans la situation où on est aujourd'hui. Donc voilà, la prévoyance, la recherche fondamentale, eh ben, c'est très important, parce que ce n'est pas au dernier moment qu'on essaie de comprendre, c'est avant.
Mais finalement, quelle leçon, vous répondez un peu à ma question, mais quelle leçon on va tirer de tout ça en termes de recherche? Est-ce qu'il est certain qu'on sera mieux préparé et mieux armé grâce à la recherche pour affronter une nouvelle épidémie si ça arrivait?
Là, il y a eu tellement de... Le monde entier s'est mis là-dessus, donc il y a eu une avancée gigantesque en un an. Espérons que quand et si cette pandémie s'arrête, on ne soit pas aussi oublieux et qu'on continue à faire de la recherche fondamentale là-dessus. Ouais.
On parle beaucoup du Covid-19 en ce moment, évidemment, mais il est important de rappeler qu'il y a d'autres maladies, et la recherche doit aussi justement continuer d'investir sur des projets autres que le coronavirus.
Oui, oui, bien sûr, la FRM, c'est 47 millions cette année. Il y a eu 5 millions qui ont été levés et distribués immédiatement au laboratoire sur le coronavirus, mais la Fondation pour la recherche médicale, c'est toutes les maladies.
Ouais. Vous avez découvert sur le tard, Thierry Lhermitte, que vous souffrez de prosopagnosie.
Oui, prosopagnosie,
alors,
oui.
Plus simplement, vous avez du mal à reconnaître les visages, y compris des gens...
Oui, non, prosopagnosie, c'est vraiment les gens qui ne reconnaissent pas les visages, qui ont un déficit énorme. Moi, j'ai un petit peu de mal à reconnaître les gens. Je suis pas physionomiste, comme on dit, voilà.
Alors, la question est simple, il y a des avancées sur le sujet ?
Non, bon, non, écoutez, c'est pas assez handicapant, je crois, pour que... En revanche, les connaissances sur la zone du cerveau de reconnaissance des formes, et en particulier des visages, c'est un truc qui est inné et qui fait éventuellement l'objet d'un déficit. Ça, c'est la connaissance du fonctionnement du cerveau.
Mais c'est pas ça, en tout cas, qui vous a donné très envie de vous lancer dans les sujets sur la science et la recherche. Dans un instant, c'est le rappel des titres, la météo, et votre invité qui nous rejoint, Thierry Lhermitte, c'est le philosophe des sciences et chercheur Étienne Klein. Restez avec nous, à tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Vous êtes sur RTL, il est 13h.
Le journal inattendu de Thierry Lhermitte.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Les Français pourront rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing à Autun, dans le Loir-et-Cher. Son caveau sera libre d'accès. Le président a été inhumé ce matin lors d'une cérémonie avec une petite trentaine de personnes, famille et proches. Il avait souhaité que cela se passe dans la plus stricte intimité, exigence suivie, d'autant plus que les restrictions sanitaires l'imposent. Valéry Giscard d'Estaing est décédé mercredi à l'âge de 94 ans. Un jour de deuil national a été décrété ce mercredi 9 décembre. À la une également, journée de manifestation dans toute la France, comme samedi dernier. De nouveaux rassemblements ont lieu contre la loi sécurité globale, mais aussi contre la précarité qui touche de plus en plus de Français. De leur côté, les petits commerçants fragilisés depuis 2 ans maintenant avec la crise sanitaire, les gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites, ils sont inquiets de ne pas pouvoir travailler correctement à l'approche de Noël à cause de ces rassemblements. Les organisateurs, eux, se dédouanent de toute responsabilité concernant les débordements. Ces manifestations ont été abordées hier par Emmanuel Macron. Je ne peux pas laisser dire qu'on réduit les libertés en France, a affirmé le président sur la loi sécurité globale. C'était le 5 décembre 2017, 3 ans déjà, que Johnny Hallyday nous a quittés, laissant orphelin de très très nombreux fans. D'ailleurs, pourquoi était-il tant aimé? Notre confrère Thibaut Geffrotin, auteur d'un livre sur la star du rock'n'roll, était l'invité de Stéphane Carpentier dans RTL Matin. Voici son explication.
Parce que la voix, parce que le charisme, parce que surtout Johnny donnait tout à chaque fois, tous les soirs, pas seulement le jour de son anniversaire au Stade de France. Dans une petite salle, il donnait tout. Quand il jouait au milieu d'un chant en Corrèze, il donnait tout. Et il y a un lien qui s'est créé entre Johnny Hallyday et ses fans. Johnny était très sollicité, mais Johnny répondait toujours. Johnny ne refusait jamais un autographe. Sa gentillesse, quand on entrait dans la loge de Johnny Hallyday, qu'on avait la chance d'être invité et de passer 2 minutes avec son idole, on était un petit peu inquiet. Et puis, quelques instants plus tard, on était face à une personne timide. Et donc, il instaurait une sorte de proximité entre lui et ses fans.
Mon vieux, elle est terrible. Il y a
Et plein d'autres histoires et révélations dans le livre de Thibaut Geffrotin, Johnny, une étoile dans nos yeux. Du sport avec les résultats de foot tout d'abord. C'était une belle soirée hier pour l'Olympique de Marseille et ses supporters. La victoire contre Nîmes, 2-0, permet aux Marseillais de prendre provisoirement la deuxième place du classement en Ligue 1. Les rendez-vous foot de ce samedi sur le terrain, c'est Rennes-Lens et Montpellier-PSG. Et sur notre antenne, c'est On refait le match à 18h30 avec Christian Olivier, suivi de RTL Foot. En rugby, J-1 pour le match France-Angleterre à Londres, finale de la Coupe d'automne des Nations. Rencontre qui fait beaucoup parler car le 15 de France est privé de son équipe type pour aller défier le 15 de la Rose. Mais les joueurs français ont été exemplaires dans leur préparation et méritent largement leur futur cap, se défend le manager des Bleus, Raphaël Ibanez. Rencontre à suivre demain sur l'antenne d'RTL. Et des nouvelles du temps, c'est avec vous, Thierry Lhermitte.
Oui, alors de la pluie surtout sur les départements du Cotentin au Pays Basque, alors que dans le nord, quelques gouttes seulement, sur le centre et les Pyrénées. Mais dans l'est, temps plutôt ensoleillé, à l'exception de la Corse et des Alpes maritimes qui subiront encore quelques pluies. Et les températures, c'est entre 4 et 15 degrés de Pontarlier à Ajaccio et 8 degrés à Paris.
Et là, Étienne Klein nous regarde en disant « Mais je n'étais pas au courant que Thierry Lhermitte ferait la météo. » Bonjour Étienne Klein.
Je sais que tout est possible. Bonjour à vous.
Vous êtes philosophe des sciences et directeur de recherche au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Avant de vous laisser la parole, Thierry Lhermitte a un message qui introduit très bien votre présence. Alors c'est à vous, Thierry Lhermitte.
Alors je voulais dire que pour tout problème complexe, il existe une solution simple et qui ne marche pas. Voilà ce que je voudrais dire à tous les faucons et les yakas qui ouvrent grand leur bouche dans cette période difficile pendant que les premières lignes travaillent tous les jours à leur poste. S'il y avait un remède miracle et gratuit, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, serait-il possible que le complot mondial, c'est-à-dire les multinationales, Big Pharma, Bill Gates, les francs-maçons, les sionistes pour ne pas dire les juifs, la Commission européenne, les Chinois, la CIA, les Illuminati et les médias complices, arrivent à empêcher la divulgation d'une découverte aussi fantastique ? Si la Covid-19 se soignait en quelques jours avec une décoction de curcuma ou de céleri rémoulade, serait-il vraiment possible qu'une telle bombe passe inaperçue et que les ennemis du peuple cités plus haut arrivent à nous empêcher de guérir pour quelques centimes d'euros ? J'en doute fort. Ce que je sais en revanche, grâce à ma fréquentation régulière des laboratoires de recherche médicale, c'est que les remèdes miracles, s'ils existent, sont rarissimes. Ce que je sais, c'est que le vivant est complexe et que la connaissance avance à petits pas et que, comme l'histoire, elle bégaye parfois. Ce qui me porte à me demander, qu'est-ce qui fait ma conviction en matière de science alors que je n'ai aucune compétence pour en juger ? Qu'est-ce qui fait que non seulement je crois, mais que je sais que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil et non pas l'inverse ? Ce qui fait mon savoir, et non mes croyances, c'est le consensus scientifique qui fait petit à petit la lumière sur les mystères de la nature. Je crois que dans l'état des connaissances, le dérèglement et le réchauffement climatique sont d'origine humaine car c'est un consensus scientifique large qui est arrivé à cette conclusion. Et j'y crois d'autant plus que cette hypothèse est réfutable comme toute conclusion scientifique. Je sais aussi que les paradigmes changent parce que justement, en science, tout est réfutable du moment que l'on peut prouver et reproduire l'expérience qui remet en cause les connaissances acquises. Voilà.
Je suppose que ça vous donne très envie de réagir.
J'applaudis ce traité d'épistémologie appliquée et qui me semble correspondre à la situation présente. Moi, je fais de la vulgarisation depuis très longtemps et ce qui s'est passé avec l'épidémie m'a remis en cause au sens où je me suis rendu compte que les méthodes qu'on utilise, essayer de clarifier les problèmes, une fois qu'on les a clarifiés, on peut les expliquer à toutes sortes de publics, scientifiques ou non, ça marche pas très bien. Il y a toutes sortes de biais cognitifs qui font que les messages que nous envoyons sont déformés dans leur propagation. D'ailleurs, certains messages à l'origine sont faux. Et au début de l'épidémie, je me disais qu'on avait une occasion unique, historique, de faire de la pédagogie, de la méthode scientifique. Enfin, des méthodes scientifiques, parce qu'il y en a plusieurs. Un physicien ne travaille pas comme un biologiste, ni comme un sociologue ou un médecin. Donc, il y a des sciences qui ont des méthodologies particulières. Mais là, on avait l'occasion, puisque l'attention des Français nous était donnée, d'expliquer ce que c'est qu'un essai en double aveugle. Si on veut éprouver la validité d'un traitement ou d'un médicament, un essai randomisé. On aurait expliqué aux Français qu'il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Ça n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu les grenouilles.
Alors justement,
enfin, on a le droit de le dire, mais c'est faux.
Alors justement, science et recherche parlent, vous venez de le dire, un langage que nous ne maîtrisons pas toujours, voire pas du tout. Vulgariser, c'est la clé, mais c'est pas toujours facile. C'est le rôle de qui avant tout ? Des scientifiques, des médecins ou des politiques ?
Moi je pense que c'est le rôle des scientifiques qui ont envie de le faire. Et on ne peut pas demander aux scientifiques de vulgariser parce que ça ferait partie de leur travail. Il y a des gens qui le font bien, qui ont la passion de le faire.
Parce que les politiques l'ont beaucoup fait aussi.
De même qu'il y a des scientifiques qui aiment enseigner, d'autres qui n'aiment pas. Il ne faut pas que ça devienne une obligation, mais c'est plutôt une affaire de passion. Il y a des gens qui aiment expliquer, voilà, et qui aiment expliquer aux autres. Parce que le fait de devoir expliquer aux autres oblige soi-même à bien comprendre. Et donc, le fait d'enseigner, c'est peut-être la meilleure façon de comprendre.
Ben moi, il me semble que c'est à l'école qu'on devrait apprendre ça. Il me semble que les biais cognitifs, ils devraient être enseignés dès l'école. Qu'on sache que le biais de confirmation, c'est le biais le plus important. C'est-à-dire celui qui fait que on voit quelque chose, si ça confirme ce qu'on pense, ben ça vient le valider. On peut dire, voilà, voyez, dans la forêt, il n'y a que des chênes. Regardez, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Et c'est la preuve qu'il n'y a que des chênes. Non, il n'y a pas que des chênes, il y a énormément d'autres matières. Mais si on pense qu'il n'y a que des chênes, on va voir que les chênes qu'on a en face de soi. C'est celui qui explique le racisme, c'est celui-là. Celui-là, il est absolument fondamental et on devrait l'apprendre à l'école, comme on devrait apprendre à l'école la différence entre coïncidence, corrélation, causalité. Ça s'appelle apprendre à réfléchir et j'ai bien peur que ça ne soit pas fait. Parce que les gens ne sont pas très conscients des biais cognitifs dont on est victime.
Voilà. Parmi les grandes préoccupations, vous vouliez dire ?
Ben, je pense qu'on fait beaucoup l'éloge aujourd'hui de l'esprit critique. Mmh. Or, il n'a pas besoin d'être encouragé, puisque tout le monde l'utilise pour contester quiconque. Ouais. Par exemple, les gens qui pensent que la Terre est plate invoquent l'esprit critique.
Absolument.
Alors que le vrai esprit critique, c'est celui qu'on impose à sa propre pensée. Penser, c'est dire non à sa pensée, c'est-à-dire provoquer sa pensée par des arguments qui contredisent ce que le cerveau pense spontanément, ses intuitions, ses préjugés, ses croyances. Et la science, c'est vraiment un très bon outil pour apprendre à penser, puisque justement, la plupart de la science, notamment la physique, propose des énoncés de lois, par exemple, qui contredisent l'observation. Mmh. Par exemple, les physiciens savent que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ce qui n'est pas ce que nous voyons.
Dans votre livre Le goût du vrai, vous commencez avec une citation de Franz Kafka qui dit « Il est difficile de dire la vérité car il n'y en a qu'une, mais elle est vivante et par conséquent, un visage changeant. » Je pense au masque, un jour la vérité c'est qu'il est inutile, le lendemain il est indispensable. Rappelez que la vérité est changeante, vous en parliez aussi en ce moment, c'est important.
Mais être scientifique, ça n'est pas ne pas se tromper, les scientifiques se trompent. Mmh. Être scientifique, c'est
bien de le rappeler.
C'est être honnête, c'est-à-dire accepter le jeu de la discussion avec d'autres scientifiques qui s'intéressent aux mêmes questions et travaillent sur des sujets voisins. Si cette discussion n'a pas lieu, si on ne joue pas le jeu de la controverse possible, eh bien on n'est pas scientifique.
Dans un instant, on parle du vaccin. Restez avec nous, vous êtes sur RTL pour le journal inattendu de Thierry Lhermitte et son invité Étienne Klein. À tout de suite.
Le journal inattendu de Thierry Lhermitte.
Avec Ophélie Meunier sur RTL. 12h30, 13h30, le journal inattendu.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Et notre rédacteur en chef du jour, Thierry Lhermitte, avec son invité Étienne Klein, philosophe des sciences. Parmi les grandes préoccupations des Français du moment, il y a évidemment le vaccin qui arrive à grands pas. Question simple, est-ce qu'il faut avoir confiance en ce vaccin fait en un temps record ou pas ?
Moi j'ai confiance, hein. Je me ferai vacciner, mais je ne suis pas prioritaire. Mais j'attendrai que mon tour vienne et je ne me poserai pas de questions parce que justement je fais confiance, non pas dans tel ou tel médecin, mais dans la médecine. Parce que la science est une aventure collective. Il ne s'agit pas d'entendre monsieur machin ou monsieur truc, professeur truc. C'est le fait qu'ils soient d'accord entre eux qui valide leur discours et non pas les points de vue personnels.
On n'a pas de recul sur les effets secondaires. Les premiers patients vont d'une certaine manière être des patients tests ou pas ? Je pose la question.
Je ne veux pas verser dans un mal que je dénonce par ailleurs, qui est l'ultra-crépidarianisme, un nom compliqué pour dire parler au-delà de ses compétences. Moi, je ne suis pas du tout biologiste, mais je lis par exemple les explications d'Axel Kahn, qui lui essaie de jouer sur deux tableaux. D'abord, il essaie de montrer par l'exemple que lui-même se fera vacciner, donc ça donne une sorte de crédibilité à cette opération. Et d'autre part, il est très actif, notamment sur les réseaux sociaux, pour expliquer ce que c'est qu'un vaccin à ARN messager, comment ça fonctionne, comment certains discours tenus par les uns et les autres s'appuient en fait sur des connaissances fausses. Et donc il y a à la fois l'exemple et la pédagogie.
Vous vouliez revenir sur le message de Thierry Lhermitte.
Oui, parce qu'il était parfait. Il dit, et c'est une vérité scientifique, la Terre tourne autour du Soleil. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, la façon de dire les vérités peut changer au cours du temps. Y a des vérités scientifiques qui deviennent complètement fausses. Il y en a d'autres qui sont remaniées. Par exemple, quand vous dites « la Terre tourne autour du Soleil », bah vous sous-entendez que le Soleil a un statut particulier, que c'est le centre de quelque chose. Or, le Soleil, il tourne autour du centre de la galaxie. Puis, il y a un monsieur qui s'appelle Einstein, qui a dit tous les référentiels sont équivalents. Donc, il n'y a pas un référentiel dont on peut dire qu'il est spécifique, particulier par rapport aux autres. Il y a une démocratie des référentiels. Et donc, il faut changer la façon de dire cette phrase pour maintenir cette vérité en tenant compte de ce qu'on a compris depuis Newton ou Copernic.
Et moi, je voudrais revenir sur le vaccin, là, pour dire que moi, je fais confiance à Alain Fischer. On a parlé tout à l'heure de ce gamin qui a été, enfin, de cet homme qui a été soigné quand il était gamin.
Quand il était gamin, Guillaume.
Voilà. Mm. Et ben, c'était le service d'Alain Fischer avec Marina Cavazzana Calvo. Tout le monde le connaît du Téléthon. Alain Fischer, c'est le papa des bébés bulles. Voilà. Mm. Ben, c'est lui qui s'occupe des vaccins aujourd'hui et qui se fera vacciner. Et moi, j'ai confiance, je me ferai vacciner aussi.
On a appris cette année que l'être humain a une grande capacité d'adaptation. Nos vies ont complètement changé. On n'a plus de liens sociaux, on porte des masques toute la journée ou presque, on ne sort plus. On en vient presque à oublier un peu comment était notre vie avant. Est-ce qu'il y a une explication scientifique à cela ?
On s'habitue en effet à beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas qu'on a envie que certaines choses du monde d'avant reviennent. Les poignées de main. La poignée de main, c'est quand même quelque chose de symboliquement très fort. Ça montre qu'on n'a pas d'armes cachées et qu'on est donc dans une relation de bienveillance ou d'amitié avec la personne dont on serre la main. Il y a les bises, ça manque quand même.
Le
fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas vraiment dire au revoir. On dit au revoir en s'éloignant, simplement. Ça crée une sorte de frustration, parce qu'on a l'impression de s'enfuir et non pas de dire au revoir. Donc je pense que ces besoins-là, on arrive à ne pas les satisfaire pendant quelques mois, mais qui reviendront de façon encore plus forte après l'épidémie.
Avec ce vaccin, vous pensez que le retour à la normale, ou presque, c'est pour bientôt ? Quelques semaines, quelques mois ?
Moi, je ne ferai pas de pronostic, justement. Je dirais que j'en sais rien. Voilà.
C'est
ça. Il faut dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas, voilà.
On ne sait rien. On espère qu'il n'y aura pas de troisième vague après Noël, que les gens auraient été sages.
Ce qui se passe en Italie est inquiétant.
Oui.
Il y a eu 1000 morts en Italie hier, donc il y a vraiment une sorte de rebond là.
Que le vaccin apportera une immunité de plus que quelques semaines, personne n'en sait rien, ça pour l'instant. Plein de paramètres.
Mais moi, ce qui m'étonne beaucoup, j'assiste un peu aux discussions, c'est la décorrélation qu'il y a entre la militance et la compétence. Et quand je parle de militance, c'est pour ou anti. On peut être anti-vaccin sans être capable de dire ce qu'est un vaccin. On peut être pro-vaccin sans être capable de dire ce qu'est un vaccin. On peut être pour la 5G sans savoir ce qu'est la 5G. On peut être contre la 5G sans savoir ce que c'est que la 5G. Et ça me fascine. Parce que c'est comme si le fait d'avoir un avis tranché dédouanait de l'envie ou de l'obligation de s'instruire sur ce à propos de quoi on a un avis tranché. Mmh. Et ça, c'est quand même embêtant, ça traduit une forme de paresse intellectuelle, et la vie qu'on a est d'autant plus tranchée qu'il va nous détourner de la connaissance.
On a vu récemment l'émergence de théories complotistes. L'envie, c'est quoi en fait ? C'est de vouloir absolument trouver un sens à ce qui n'a pas de sens, parce que cette histoire de virus, quand même, qui met à plat le monde entier pendant plusieurs mois, ça.
J'ai un ami qui s'appelle Gérald Bronner, qui est sociologue, qui s'intéresse aux théories du complot, aux croyances, etc. Le complotisme, d'après ce qu'il en dit et que j'en perçois aussi, c'est pas un refus de la rationalité, c'est au contraire une hyper-rationalité que vous appliquez à un petit monde. Et donc, ce qui n'a pas de sens, vous allez lui en trouver un avec une chaîne causale très simple. Il y a une cause unique qui est responsable, par l'invocation d'un millefeuille argumentatif, d'expliquer tout ce qui se passe. Et c'est très confortable pour l'esprit. Et d'autant plus que les complotistes sont des gens qui inversent la charge de la preuve. C'est à vous qu'ils demandent de démontrer qu'il n'y a pas eu de complot. Mais comme vous le savez, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et donc on se fait piéger par ce retournement de la charge de l'argumentation ou de la preuve.
Moi l'autre jour j'ai entendu sur un site passionnant là, qu'il y avait une dame qui était en contact avec les civilisations qui habitent dans le centre de la Terre.
Elles sont nombreuses.
Oui, et elle lui faisait dire, vous savez qu'on subit les conséquences de toute la pollution que vous faites en haut. Et madame, prouvez-moi qu'il n'y a personne. Au centre de la Terre. Voilà.
Et ce truc incroyable, vous avez remarqué que toutes les météorites sont tombées sur des cratères.
Mais oui, bah
ça
bien sûr.
Ça peut pas être un hasard.
Mais oui.
On va donner de mauvaises idées à nos auditeurs. Merci Étienne Klein. J'imagine que vous avez encore beaucoup de questions à poser à Étienne Klein, Thierry Lhermitte, mais vous aurez l'occasion de le faire juste après cette émission. Je rappelle votre livre Étienne Klein, Le goût du vrai, c'est chez Tract Gallimard, mais aussi Psychisme ascensionnel, sorti en octobre aux éditions Artaud. Et vous êtes l'auteur d'une trentaine d'autres ouvrages passionnants. Thierry Lhermitte, vous restez avec nous dans un instant. Vous laisserez un message à une personne de votre choix. Merci de nous écouter sur RTL. À tout de suite.
inattendu de Thierry Lhermitte.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Alors c'est un rituel dans le journal inattendu. Je demande toujours à mon invité de me donner deux ou trois de ses chansons préférées. Là je dois dire, vous rigolez par avance parce que vous savez ce que vous m'avez dit. Vous m'avez surprise. On écoute.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin.
La danse des canards. Pourquoi?
C'était pour pas que vous la mettiez justement, pour que vous choisissiez l'autre.
Ah ben vous me connaissiez pas. Bon alors, on parle de l'eau dans un autre style, c'est aussi une de vos chansons préférées. Ouais. Alain Souchon, si en plus il n'y a personne.
Temple de synagogue, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus.
Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette chanson, Thierry Lhermitte ?
Cette chanson m'a fait pleurer la première fois que je l'ai entendue. Ensuite, elle a tellement résonné avec l'actualité, parce qu'elle est, est sortie avant les attentats de 2015. Et, il y avait eu d'autres attentats avant, hein, mais elle est bouleversante d'actualité. Et puis voilà, et si c'était simplement le vieux plaisir de zigouiller, voilà.
Hashtag je suis Charlie. Vous parlez d'Alain Souchon, vous savez qu'il était mon invité dans le journal Inattendu la semaine dernière. Justement, chaque semaine, à la fin de l'émission, je propose à mon invité de laisser un message à une personne de son choix. Et la semaine dernière, c'est à vous qu'Alain Souchon a décidé de laisser un message. Alors on vous le transmet. Message d'Alain Souchon à Thierry Lhermitte.
Thierry, mon cher Thierry, on a des bons souvenirs, on a nagé dans l'océan Pacifique ensemble, on a fait des tas de choses. Cependant, on ne se voit pas suffisamment. Et j'aimerais bien qu'on recommence soit à nager dans le Pacifique, soit faire du ski.
Bah ouais, moi je suis bien d'accord avec Alain et j'espère qu'on va réparer ça rapidement dès que...
Le ski c'est peut-être pas la bonne idée là, parce qu'en ce moment les stations sont fermées. Ah très bien. Bon ben vous savez ce qu'il vous reste à faire alors, dans le respect des règles sanitaires bien sûr. Ouais. C'est votre tour Thierry Lhermitte, si vous avez un message à faire passer à quelqu'un que vous connaissez ou pas, c'est l'occasion. À qui avez-vous choisi ce message?
À Jean-Marie Bigard qui était un grand humoriste, mais alors je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a tellement choqué qu'il faut que je lui dise. Jean-Marie, l'autre jour tu as dit, quand est-ce que l'armée va rentrer à l'Élysée? Arrêter l'autre et le juger dans l'après-midi. Alors ça s'appelle, je pense que c'est un délit déjà, ça s'appelle appel à la sédition. Mais est-ce que tu crois vraiment que c'est une bonne idée d'avoir un régime militaire? Moi j'ai pas envie du tout d'avoir Pinochet ou d'avoir les colonels grecs en France et d'avoir une justice d'exception qui juge les gens dans l'après-midi. Donc t'es un grand humoriste, mais là Jean-Marie, c'est pas drôle du tout.
Message qui sera passé et on vous préviendra si nous avons une réponse. Avant de se quitter, le parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale que vous êtes peut rappeler aux auditeurs comment faire un don. C'est important, notamment les dons par SMS.
Par SMS, c'est enfantin. Il suffit d'envoyer le message don, D-O-N, au 92-300 et 10 euros seront prélevés sur votre facture téléphonique. Voilà.
Donc, et c'est reversé à la Fondation.
Et ça va dans les laboratoires en quelques semaines.
Rendez-vous aussi sur le site frm.org si vous voulez faire un don plus important. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2021, Thierry Lhermitte?
Ben, comme à tout le monde, la fin de cette année pourrie et revenir à une vie normale, que les gens puissent sortir, aller au restaurant, que les conséquences soient pas trop dramatiques pour tous les gens qui en ont souffert.
Qu'est-ce qui vous a le plus manqué cette année?
Bon, mais je vous dis, j'ai été tellement privilégié dans ce confinement que c'est rien du tout, honnêtement, rien du tout. Ce qui m'a manqué, c'est que les gens soient malheureux, quoi, que tout s'arrête, voilà. À moi, non.
Ouais. Je rappelle aussi le numéro du Téléthon. 3637 ou téléthon.fr. C'est un week-end important pour les dons. La recherche a besoin de vous. Merci Thierry Lhermitte d'avoir été avec nous. Je rappelle votre pièce aussi, Les Fleurs de Soleil, si tout va bien. Retour en janvier sur les planches. Janvier, c'est également la sortie du film de Michel Larocque dans lequel vous jouez, Alors on danse. Et j'en profite pour dire que Michel Larocque sera mon invité dans le journal Inattendu. Début janvier, voilà pour vos rendez-vous. Pour les auditeurs, le rendez-vous c'est sur rtl.fr ou sur notre application RTL pour écouter cette émission au podcast. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi écouter toutes les émissions précédentes et nos précédents invités, et Alain Souchon par exemple qui était là la semaine dernière. Tout de suite, un CA confidentiel avec Jean-Alphonse Richard consacré à Karl Lagerfeld. La semaine prochaine, mon invité ce sera Cadmerade. Passez un excellent week-end sur RTL et je vous dis à samedi prochain.
Le journal inattendu sur RTL.